16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures d'histoire décontractée mais rigoureuse, en compagnie d'un garçon qui lui aussi est tout à la fois décontracté et rigoureux. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous, buenas dias a todos y mucho mucho besitos, puisque je sais qu'on nous écoute jusqu'au Vietnam.
Alors Mathieu, comme vous, Historiquement Vôtre n'est pas dans son état normal aujourd'hui, et c'est compréhensible parce que nous célébrons aujourd'hui la 100e de l'émission.
Eh oui, c'est pour ça que je me sens tout bizarre, tout bizarrigno, comme on dit au Maroc. J'imagine, Stéphane, que pour marquer le coup en cette 100e, on a choisi une thématique forte.
Évidemment, Mathieu, puisqu'aujourd'hui, tout part d'une chanson de Demis Roussou. Et oui, c'est le thème du jour. On écrit sur les murs, mais pas que les noms de ceux qu'on aime. Elle a écrit dans la grotte, elle a dessiné, souvent des choses un peu olé-olé. Je vous raconte, comme le livre de notre invité, que l'homme préhistorique est aussi une femme qui peint, mais pas seulement, vous verrez. Puis, lui aussi a commencé à écrire sur les murs, à graffer avec son collectif de street artistes, Jean-Michel Basquiat. Des rues des quartiers branchés de New York au musée où il est désormais exposé. Je vous raconte la carrière éclair de ce génie. Quant à vous, Mathieu, pour votre 100e portrait, 99% vrai, vous m'avez dit vouloir évoquer un personnage décisif de l'histoire contemporaine. Oui. Je vous ai donc dit, banco, tu feras Demis Roussou.
Et je vous en remercie, Stéphane, car oui, on a un peu vite oublié Demis Roussou, qui pourtant avait tant à nous raconter. Quoi qu'en disent les pisse vinaigres des un rock, Demis restera dans nos cœurs. Là, on sent que ça vous parle, Stéphane.
Ah, moi, j'adorais
Demis Roussou. C'est vraiment vos yeux qui s'allument, là.
Ah oui, oui. Mais même, vous savez, rien, plus rien ne s'allume quand Demis chante. Eux aussi, Mathieu, resteront dans nos cœurs. Ever and ever, forever and ever. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors, moi, je suis un peu gêné parce que je ne voudrais pas faire partie des pisse vinaigres qui dénigrent Demis Roussou, ce que j'aime beaucoup également.
Mais attention.
Enfin, quand je vous citerai Éluard, qui lui a écrit sur les murs de ma prison, j'écris ton nom, liberté.
Oui, c'est
avouez que ça vaut quand même Demis Roussou. Hein. Et c'est un verre.
Éluard, ça vaut Demis Roussou.
C'est un verre que Mirabeau aurait pu faire sien s'il n'avait pas vécu 150 ans après son auteur. Parce que Mirabeau, c'est le château d'If, fort de château de Vincennes, île de Ré, il a connu toutes les prisons. Et inutile de vous dire qu'il aurait eu tout loisir de graver son nom dans les murs. Et c'est en prison, justement, qu'il tombe passionnément amoureux de Sophie de Ruffet. Et c'est cette belle histoire d'amour et d'écriture entre cavale et murs de prison que je vais vous raconter tout à l'heure.
Historiquement Vôtre, c'est une émission profondément pratique. Comment occuper les enfants quand il y a les périodes de confinement? Eh bien, David a la solution, la peinture en bombe.
Mais oui, tout à fait.
À faire des graffitis.
Oui, voilà, puis c'est aussi, ça collait un petit peu au thème de l'émission, hein, écrire sur les murs avec des bombes.
Et depuis quand ça existe, vous nous raconterez les premières bombes à graffitis. Olivier Poul, c'est avec nous aussi, Stéphane, votre chronique préférée.
En fait, il adore les pâtisseries, parce que c'est récurrent. Hein.
Mais surtout pour la 100e émission, je me suis dit, j'allais faire 1000 feuilles.
Ah, c'est pas mal.
Ne l'encouragez pas.
C'est un joli gâteau d'anniversaire, en quelque sorte, aussi.
C'est très
ça ressemble
bon,
à une brique en plus, feuilles. Non, je trouve que c'est très, très cohérent.
C'est très, bien. Très bon.
Et je répondrai à cette question, combien y a-t-il de feuilles dans un millefeuille? J'ai la réponse.
Et pas mille. Très bien. Et vous le prenez chez qui, votre millefeuille?
Il y en a tellement de bons à Paris.
J'ai goûté celui qui avait eu le prix du meilleur millefeuille de France. Ah ben non, moi j'en ai goûté qui était fait à Fontainebleau. Et la pâte feuilletée est roulée dans des fragments de nougatine. Non, mais c'est avec de la vraie vanille.
Donnez le nom qui t'a fait la pub.
Non, je ne me souviens pas. Je me souviens de l'extase.
C'est pour le mec donc, de Fontainebleau,
il faut aller faire tous les pâtissiers de Fontainebleau et espérer tomber sur le bon.
Enfin, c'est une statistique embarrassante, mais que je me devais néanmoins de vous en informer à l'occasion de cette 100e édition d'Historiquement Vôtre. Il y a, écoutez cette statistique, il y a autant de défaites de Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz que de poils sur le torse de Demis Roussou dans les années 70. La 100e édition de Bern to be Alive sera-t-elle enfin la bonne pour Stéphane? Est-ce le maudit? Nous le saurons aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage du jour qui écrivait sur les murs au sens propre, puisque Stéphane Bern nous raconte l'histoire de la femme préhistorique. Non, Pascal, pas celle-là.
16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement Vôtre, non. Aujourd'hui, on remonte encore plus loin dans le temps. préhistoriquement vôtre. Stéphane Bern nous raconte celle qui écrivait sur les murs, qui peignait, qui chassait, qui partait à la guerre aussi, on va le voir, la femme préhistorique.
C'est une fresque extraordinaire, découverte au début du XXe siècle dans la grotte de Pechmerl dans le Lot. Sur les parois, deux chevaux, l'un regarde vers la gauche, l'autre vers la droite. Leurs robes sont décorées de pois, d'où leur nom de chevaux ponctués. Et autour d'eux, comme une signature, apparaissent six empreintes de mains négatives imprimées au pochoir. Les mains, Mathieu, des hommes préhistoriques, nos lointains ancêtres, qui nous ont laissé un témoignage émouvant de leur passage sur Terre. Et oui, sauf que ces mains appartiennent en réalité, je vais vous le dire, à des femmes. Des femmes peintres. Voilà de quoi bouleverser notre vision de la préhistoire. La préhistoire, rappelons-le d'abord, c'est une période longue de dizaines de milliers d'années qui précède l'invention de l'écriture. Aux alentours de 3300 ans avant notre ère, l'histoire, sans les textes donc, mais avec des dessins. Durant cette période, l'homme de Néandertal, d'abord notre cousin, puis l'homo sapiens, c'est-à-dire à peu de choses près nous tous, vous, Mathieu, moi, forment des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades qui se sédentariseront au néolithique vers 6000 ans avant Jésus-Christ. L'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, l'homme préhistorique est toujours un homme. Terme générique, me direz-vous, mais alors, pourquoi presque toutes les images que l'on a en tête figurent-elles uniquement des hommes, comme la très célèbre Road to Homo Sapiens, ou en français la Marche du Progrès, dessinée dans les années 60, qui illustre sous forme de fresque l'évolution depuis les grands singes jusqu'à l'homme moderne? Il faut attendre 1974 et la découverte de Lucie, un squelette australopithèque, mis au jour en Éthiopie, pour que la femme préhistorique intègre enfin l'imaginaire collectif. Jusque-là, c'est vrai, la femme était parfois représentée, mais dans un rôle précis, assise devant la grotte, plus ou moins débraillée et flanquée d'une horde de marmots hirsutes. Tandis que l'homme, lui, posait debout, dignement couvert de ses peaux de bête, scrutant l'horizon pour y découvrir son prochain mammouth. Comment, dans ces conditions, imaginer que la femme ait été capable d'un travail artistique? Non, la femme, reléguée aux tâches reproductrices et domestiques, ne pouvait qu'attendre avec anxiété le retour de l'homme chasseur qui, à ses heures perdues, décorait aussi la grotte. Pendant longtemps, les plus petites mains sur les parois des grottes ont même été attribuées à des adolescents. Mâles, évidemment. C'est l'étude attentive de plusieurs détails, comme le rapport de longueur entre les doigts, qui a permis de développer l'hypothèse scientifique selon laquelle ces empreintes appartenaient à des femmes, et même majoritairement à des femmes. Alors, était-elle là uniquement pour tenir la lampe à graisse, ou peut-être aussi le pinceau en poil de blaireau? Si la révélation est un coup de tonnerre dans les milieux préhistoriens, c'est que depuis toujours, on considère les peintures rupestres comme évidemment masculines. En réalité, il n'existe aucune preuve archéologique de la faiblesse supposée des femmes ou d'une quelconque division sexuée des tâches tout au long de la préhistoire. Et si les femmes ont peint, on peut facilement imaginer qu'elles aient aussi pu faire d'autres choses, et notamment qu'elles aient chassé. Le mythe de l'homme fort ayant inventé le feu et chassant le bison a vraiment du plomb dans l'aile. C'est à la féminisation du travail de chercheur et aux nouvelles technologies permettant d'étudier l'ADN des squelettes et de déterminer leur sexe avec certitude que l'on doit ce changement de paradigme. Et les résultats de leurs observations prouvent que le dimorphisme, la différence physique entre hommes et femmes, était assez peu important. Les femmes avaient aussi des musculatures et des ossatures importantes, des bras puissants. Certaines femmes préhistoriques d'Europe centrale étaient même aussi robustes que des athlètes lanceurs de poids d'aujourd'hui. Le surdéveloppement d'un bras par rapport à l'autre laisse envisager qu'elles avaient l'habitude de manier la sagaie, la courte lance servant à tuer les animaux ou à chasser. À l'inverse, des traces de prémâchage sur les dents de squelettes d'hommes permettent d'envisager qu'ils participaient à la préparation des repas, tâches généralement considérées comme féminines. Cette idée d'une division très genrée nous vient en fait des premiers anthropologues qui, au XIXe siècle, sont bien entendu tous des hommes. Et ce sont eux qui calquent sur le monde préhistorique le modèle de leur propre société patriarcale et monogame. Les femmes, si elles détenaient un rôle spécifique, n'étaient en tout cas pas sédentaires. Pour effectuer des cueillettes, elle devait par exemple parcourir de très longues distances à pied. L'impressionnante anatomie des femmes semble indiquer qu'elles labouraient aussi les sols, qu'elles broyaient les grains, ramassaient les céréales, elles travaillaient les peaux, elles tressaient des objets essentiels comme les paniers. Et si elles maniaient les armes, pourquoi n'auraient-elles pas pu également être des guerrières ? De récentes analyses de sépultures ultérieures au paléolithique ont prouvé que des femmes pouvaient l'être sur tous les continents et dans toutes les cultures. Alors, pourquoi pas la femme préhistorique ? Si l'hypothèse la plus probable est désormais que les rôles n'étaient pas divisés uniquement en fonction du sexe, mais aussi selon les capacités et les aptitudes de chacun et de chacune, selon les âges et les situations. Mais une chose est sûre. L'art pariétal ou mobilier, les objets d'art vont nous en dire encore plus sur l'importance de la femme préhistorique. Sur les parois des grottes, nos ancêtres ou lointains cousins n'ont pas seulement dessiné des animaux, ils ont aussi représenté des corps humains, des corps d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes, et même leur sexe. Des vulves peintes, gravées ou sculptées en os, en bois et dans la pierre, de même l'art mobilier, c'est-à-dire les petites statuettes retrouvées un peu partout en Europe, sont essentiellement des femmes. Elles rassemblent même plus de 80% des corps dessinés. Les représentations varient beaucoup selon les lieux et les époques. Elles peuvent être de face ou de profil, debout, assises, simplifiées ou détaillées. Parfois, seules les hanches et le ventre sont tracées. D'autres fois, les dessins sont associés à des figures animales, à des formes géométriques. Le très grand réalisme permet dans certains cas d'identifier une jeune fille, une femme enceinte ou une femme déjà mère. La nudité est en tout cas la façon la plus fréquente de représenter la femme et le sexe féminin, contrairement à toute l'histoire ultérieure, n'est pas du tout honteux. Quelle valeur symbolique avaient ces images ? Relèvent-elles du profane ou bien du monde sacré ? Les petites figurines servaient-elles d'amulettes ou de talismans ? Les hypothèses sont nombreuses. Peut-être le rôle des hommes dans la reproduction était-il encore inconnu du fait du délai entre l'accouplement et l'accouchement, conférant à la procréation une valeur surnaturelle. Une chose est sûre, ce monde symbolique était à une écrasante majorité féminin. Certains chercheurs y voient la preuve de l'égalité, voire de la supériorité de la femme dans les sociétés préhistoriques. D'autres, l'existence de divinités féminines. L'un n'exclut peut-être pas l'autre, d'ailleurs. En attendant peut-être un jour de nouvelles réponses, il nous reste à contempler les chefs-d'œuvre de l'art pariétal en pensant à l'homme préhistorique dont on sait aujourd'hui qu'il était aussi une femme.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de cette femme préhistorique découverte, nous sommes avec Marilyn Patou-Matisse. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marilyn Patou-Matisse. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et rattachée au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages et le dernier redonne à la femme toute sa place. L'homme préhistorique est aussi une femme, paru en octobre dernier chez Alary Éditions. Ça sonne comme une évidence ce titre, mais c'était nécessaire de le rappeler parce que vos collègues préhistoriens avaient juste oublié que la préhistoire, c'est aussi une histoire de femmes.
Oui, c'est-à-dire que là, c'était plus que nécessaire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder ça, parce que ça fait un petit moment que je travaille en préhistoire, notamment sur les comportements des hommes préhistoriques, les Néandertaliens et les premiers hommes modernes, les Cro-Magnons, je me suis aperçue qu'on parlait de l'homme et que c'était pas seulement générique. On me disait, oui, mais c'est générique. Non, en réalité, toutes les représentations, toutes les innovations, il y avait un sous-entendu que c'était masculin. L'homme aurait inventé le feu, l'homme masculin, taillé les outils, etc. Alors qu'en fin de compte, au niveau archéologique, surtout pour le paléolithique, c'est-à-dire la période de chasseurs-cueilleurs, nous n'avons pas de preuves archéologiques. C'est-à-dire qu'on acceptait comme quelque chose de naturel, qui allait de soi, que c'était essentiellement les hommes, par exemple, qui taillaient le silex. Et on voit très bien que c'est absolument à remettre en question, puisqu'il y a des biais méthodologiques qui montrent qu'en utilisant notre société à nous, de calquer notre modèle sociétal qui est monogame, qui est patriarcal, sur ces sociétés, ça n'a pas de sens.
Surtout au 19e, en fait, c'est là que ça s'est...
Exactement, 19e, bien sûr,
quoi,
tout à fait, sur le 19e, parce que comme vous disiez très justement dans votre récit, la science préhistorique en tant que discipline, ça naît, on va dire, au milieu du 19e. Il y a un peu de fouilles archéologiques avant, mais c'est surtout là. Et là, évidemment, ce sont que des hommes. Et la société telle qu'elle est à l'époque, je veux dire, c'est un patriarcat radical. On n'a qu'à voir les lois dans le code de Napoléon. Et en fin de compte, ils vont évidemment ne pas envisager autre chose que ce qu'ils voient tous les jours, c'est-à-dire que la femme, elle est dans l'espace domestique, elle est dans la sphère domestique, elle est là pour les enfants et s'occuper du foyer, comme on le voit plus tard dans ces sociétés même plus récentes de l'Antiquité. Ils calquent vraiment ça.
Il y a un autre changement, il n'y a pas que le changement de regard sur la préhistoire récemment, c'est aussi l'ADN. L'ADN va nous aider à découvrir ce rôle qu'avait la femme préhistorique. On découvre avec l'ADN que certains squelettes les plus robustes n'étaient pas des squelettes d'hommes, en fait.
Exactement, parce que comme on partait de présupposés et de préjugés, parfois on peut dire même de préjugés sexistes, en fin de compte, il y avait comme ça des assimilations. Vous savez, la construction de la femme, de l'infériorité de la femme, elle est bien sûr dans les textes, ce que j'appelle infériorité par ordre divin, dans les textes, tous les textes des religions, textes sacrés, mais aussi au 19e, c'est en même temps que cette préhistoire qui prend racine, on a beaucoup d'influence de l'anthropologie physique. Et vous savez aussi les conséquences que ça a eu, parce que c'est à ces périodes qu'on va classer les humains, qu'on va hiérarchiser les humains, n'est-ce pas, et qu'on va faire les races. Et ben là, c'est pareil pour les femmes. Donc, elles sont supposées plus fragiles, avec des petits squelettes et tout, moins intelligentes parce que plus petit cerveau. Tout ça, c'est la malmesure de l'homme, hein, comme dit Stephen Gould, et qui va amener à son infériorisation. Et de ce fait-là, on va retrouver, donc, dans les comportements imaginés par les préhistoriens, on va retrouver cette façon de concevoir les femmes. Eh ben pas du tout, puisque en fin de compte, quand il y avait, vous savez, les squelettes sont pas toujours bien conservés, donc en fonction de leur robustesse, on les mettait plutôt du côté masculin. Mais avec l'ADN, vous savez, l'ADN ne ment pas. Si vous faites de l'ADN nucléaire, les chromosomes X et XY, vous voyez tout de suite.
On est sûr.
Et là, d'un seul coup, vous voyez l'homme de menton qui devient la dame du cavillon, parce que en fin de compte, et inversement, des squelettes plus fragiles qui étaient mis chez les femmes qui deviennent masculins. Donc ça, c'est vrai que ça va révolutionner beaucoup de choses, puisqu'on va apprendre pas mal de choses avec l'ADN ancien.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On écrit sur les murs, ou plutôt, en ce qui concerne notre premier personnage du jour, on peint sur les murs la femme préhistorique qui nous intéresse aujourd'hui avec Stéphane Bern. On en parle avec notre invitée Marilène Patou-Matisse. Justement, elle peigne sur les murs, ces femmes préhistoriques, on l'a dit. Les traces de petites mains dans les peintures rupestres, ce ne sont donc pas des mains de jeunes garçons, comme on l'a cru pendant longtemps.
Oui, ce qui est intéressant, faut savoir que là aussi, les études menées récemment, c'est pas simplement la taille. Parce que là, on pourrait discuter. Oui. C'est que nous avons des références métriques, des différences vraiment très, très marquées entre les mains masculines et les mains féminines. Donc, c'est pas seulement parce qu'elles sont plus petites. Là, vraiment, c'est important de dire parce que c'est beaucoup plus sûr. Et ce que je voudrais dire, c'est que là aussi, comme pour la taille du silex, comme pour la chair, on pensait vraiment que c'était que les hommes. On avait même des écrits qui disent que les femmes ne pénétraient pas à l'intérieur des grottes. Vous savez que on dit les hommes préhistoriques, mais dans la grotte, non. Ils vivent devant, à l'entrée et tout. Et donc, seulement, c'était les hommes qui pénétraient dans ces galeries profondes, etc. Et notamment pour aller peindre. Donc, non, c'était pas possible. D'un seul coup, on a vu ça. On a découvert ça. Ce travail a montré vraiment qu'il y avait la présence féminine dans ce monde souterrain, qu'on pensait essentiellement masculin. Mais je dois dire que c'est très compliqué parce que même encore maintenant, il y a de la résistance. C'est-à-dire que certains collègues vont penser que peut-être c'est les mains, mais en réalité, le cheval qui est à côté, c'est pas elle. Mais pourquoi? Et je veux dire, parce que là, on garde absolument les réflexes. Non, il y a certaines activités qui peuvent... être faite que par des hommes. Et donc, là même, avec les preuves, on a encore du mal à... Mais on va y arriver. Oui. Mais je veux dire, c'est pour vous dire que c'est profondément inscrit, et même dans le populaire, oui, toutes les représentations, exactement. Les femmes ne sont pas...
Il va falloir décoller cette image. Une autre aussi image qu'il faut décoller. Vous parlez dans votre livre des fameuses Vénus historiques. Ces images de femmes sur les parois ou sous forme de statuettes, d'ailleurs, qui sont souvent de belles femmes, avec de belles courbes, des belles fesses, des beaux seins. Et vous dites que ces peintures ou sculptures ne sont pas forcément érotiques.
Oui, elles ne sont pas forcément érotiques. Et surtout, parce que l'érotisme est souvent lié au masculin, la vision de l'homme, de réaliser une femme idéale. Et en fin de compte, mais rien ne prouve scientifiquement que ces statuettes ont été faites ou ces gravures de vulves ont été faites par des hommes. Rien, on peut pas scientifiquement le montrer. On peut scientifiquement vous dire à quelle période c'est, parce que c'est, vous savez, là on parle quand même d'un art sur 25 000 ans, faut pas oublier, et qui va pour les Vénus de la France jusque dans l'Alta, jusqu'en Tibet.
Donc déjà, là aussi, parce que déjà à l'époque les journées étaient longues.
Mais, voilà, et puis il y avait beaucoup de traditions, c'est pas uniforme. Et ce qui est très important de voir, c'est que là aussi on a pendant, on va dire 150 ans de préhistoire, on a perçu ça comme étant forcément sculpté ces Vénus par des hommes. Non, donc c'est peut-être autre chose. On peut très bien envisager que ce soit notamment celles qui sont perforées, des amulettes protectrices au moment notamment de l'accouchement, parce que c'est un passage difficile de la vie des femmes, parce qu'à l'époque il n'y a pas de césarienne, si ça se présente mal ça se passe mal, et donc peut-être fait par des femmes pour des femmes.
Mais j'ai trouvé formidable d'ailleurs cette idée qu'on pensait à l'époque, avec toutes ces peintures de sexe féminin, que les hommes et les femmes étaient fascinés par ce phénomène de la naissance. En fait, ils pensent à l'époque que c'est un phénomène surnaturel. Parce que c'est vrai, l'homme met sa graine, si je puis dire,
vous
un jour.
Si joliment.
Et ensuite, c'est 9 mois plus tard que l'enfant paraît.
Sûr. Et donc, il n'y avait pas d'association, on en est sûr de ça. Donc, il ne faisait pas le lien.
C'est justement la réflexion qui est menée. Ouais. Parce que, en fin de compte, quand se fait ce passage de la compréhension, de la participation de l'homme à la reproduction, puisque la seule chose qui voit, parce que vous vous imaginez, ce sont des clans, des tribus, il y a entre 30 et 50 personnes, etc. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas papa, maman, les enfants. On est quelque chose de clanique. Et on le sait d'ailleurs par la génétique, il y a de la consanguinité. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le bébé, il sort du ventre de la mère. C'est la seule chose dont on est sûr. Et là, c'est quelque chose. Donc, on réfléchit. Et il y a deux hypothèses. Il y a ceux qui pensent que c'est inné, c'est-à-dire que on va comprendre que le masculin partit. Et puis une autre que moi je trouve intéressante, c'est le fait que c'est la domestication des animaux qui va changer le regard. Parce que là, c'est même les animaux sauvages, vous les voyez pas. Un cerf, il y a les rutes en automne et l'éléphant, il naît en juin. Donc, tandis que là, ils vont voir dans leur enclos, ils vont voir les petits, moi, comme je dis toujours un peu pour sourire, les petits cochons roses, les petits cochons noirs, du féminin et du masculin. Puis d'un seul coup, ils vont avoir des noirs et roses. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. C'est une des hypothèses. Et là, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il faut complètement revoir ça. Si on voit, parce que les représentations masculines sont extrêmement rares dans la
parentale. En tout cas, ce qui est formidable dans votre livre, justement, c'est que on rebat les cartes, en quelque sorte. La femme ne faisait pas que la cuisine, l'homme primachait, la viande, etc. Non, c'est formidable. En tout cas, merci Marie-Hélène Patoumédi. Je rappelle votre dernier ouvrage pour tout savoir sur la femme préhistorique. L'homme préhistorique est aussi une femme, paru aux éditions Allary. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec celle qui conserve précieusement toutes les gazettes historico-people de l'époque, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez d'une histoire d'amour entre Mirabeau, le révolutionnaire, même si le mot est un peu galvaudé dans son cas, parce que il a eu plusieurs discours en même temps, et une certaine Sophie de Ruffet,
oui, c'est
la
vrai.
Belle marquise.
Bah, c'est vrai, Stéphane, parce que vous nous aviez beaucoup parlé de Mirabeau, le tribun, l'homme politique, mais là, c'est de l'homme amoureux dont je veux vous parler. Et cette Sophie de Ruffet, figurez-vous qu'elle est mariée à 17 ans par son papa, à un veuf, président à la Cour des comptes de Dole, qui a, tenez-vous bien, 49 ans de plus qu'elle.
De plus en plus.
49 ans de plus qu'elle. Oui. Bon, alors, inutile de vous dire, bien sûr, c'est un ménage plutôt mal assorti. Ils vivent à Pontarlier, dans le Jura. Et c'est là qu'elle va rencontrer Mirabeau, parce que Mirabeau passe d'une prison à l'autre. Et il a été à l'île de Ré, il a été au château d'If, et là, le voilà au Fort de Joux. Mais comme c'est une prison pour dettes, le régime est plutôt doux. C'est plutôt souple. Alors, il a le droit de passer ses journées en ville du moment qu'il devient dormir à la prison le soir. Et comme le directeur du Fort de Joux s'ennuie dans sa prison et trouve que Mirabeau a de la culture et de la conversation, eh bien, il lui présente le tout Pontarlier. Et dans le tout Pontarlier, il y a le vieux marquis de Monnier et sa très jeune épouse Sophie. Et là, le marquis fait une grosse erreur classique. Il introduit le loup dans la bergerie. Il prend Mirabeau comme partenaire de whist. Alors, que pensez-vous qu'il arrive à... Whist. Il joue aux cartes avec lui.
Le whist, je connais
le
pas.
Le whist, c'est un jeu de
whist. Ça, c'est un tropé, je ne connais pas.
Vous connaissez pas le whist?
C'est pas le twist, c'est un whist. Le whist, c'est un jeu anglais, en fait, à l'origine. Qui se pratiquait à la cour de France.
Oui, excusez-moi, ça, je ne pensais pas que ce fut
On ne pensait pas que ça allait buter chez vous. Voilà, oui. Sur...
En tout cas, ce qui devait arriver arriva. Évidemment, entre un vieux mari de 70 balais et Mirabeau qui en a que 26, le choix de Sophie est assez rapide. Elle devient sa maîtresse. On sait que ça se passe le 13 décembre 1775 et on le sait très précisément parce que Mirabeau l'a écrit et il l'a écrit de façon magnifique. Il a simplement écrit bien appuyé « Je fus » heureux. Et c'est la première fois qu'il est amoureux. Il est marié, mais mal marié. Donc là, il est amoureux. Et les mois passent et les amants se disent on va fuir ensemble. Et finalement, ils veulent fuir ensemble en Suisse. Mirabeau part à Verrières.
C'est toujours une très bonne idée.
Toujours une très bonne idée, déjà à l'époque, bien sûr. Et elle échappe à ses parents qui l'avaient mise un peu sous cloche à Dijon, voyant qu'elle commençait à filer le guidou. Elle s'échappe déguisée en homme. Et au cas où elle serait reprise, elle a pris sur elle un flacon de laudanum pour se donner la mort plutôt que de ne pas pouvoir retrouver son amant. C'est beau. Et le soir, à 11h du soir, les amants se retrouvent éperdus d'amour dans son journal. Mirabeau crayonne un cœur enflammé. Et puis direction à Amsterdam, où on vit d'expédients, on lui traduit des bouquins en latin, en italien. Il traduit surtout des livres interdits qui sont publiés beaucoup en Hollande à cette époque. Il écrit des livres érotiques, hein, parce que Mirabeau, c'est un genre de sade, en moins sadique, j'allais dire, c'est naturel, mais il a écrit de très beaux ouvrages érotiques et il le dira d'ailleurs dans une lettre à Sophie de Ruffel. J'ai dit donc Sophie, j'avais de quoi raconter. Nous aimions tant notre lit. Hein. Il a dû se passer des choses dans leur lit en Hollande. Et pendant ce temps-là, leur père, comme on dirait de nos jours, ne reste pas inactif. Ils les font condamner par contumace. Mirabeau condamné à mort pour rapte et Sophie de Ruffel condamnée au couvent à vie pour adultère. Donc les jeunes filent le guidou, mais pendant ce temps-là, ils sont quand même gravement menacés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils avaient des dettes en Hollande et quand vous aviez des dettes, on ne pouvait pas vous extrader. Et ben le père de Mirabeau va payer les dettes de son fils pour pouvoir le faire mettre en prison. Donc il se retrouve. Elle a essayé de boire son laudanum quand elle se fait arrêter. Elle a pas le temps. Elle va se retrouver dans un couvent pendant 5 ans. Lui, il va se retrouver à Vincennes pendant 3 ans de prison pour avoir rapté la femme qu'il aime et réciproquement. Ça a été très loin. Entre-temps, elle accouche d'une petite fille qui s'appelle Gabrielle Sophie. Là encore, c'est très beau parce que c'est une enfant de l'amour qui porte le prénom des deux protagonistes. Pendant qu'ils sont en prison, ils s'écrivent constamment. Il lui écrit qu'il mange de caresses les lettres de cette femme qu'il aime. Il soupire de cueillir sur ses lèvres humides le bonheur et la volupté. Ils utilisent un code secret pour parler d'amour. Et quand ils n'ont plus d'encre, parce qu'elle leur est rationnée, ils font tremper des clous dans du vinaigre et ils écrivent avec ce liquide-là. Voilà. Mais enfin, bon, ils vont se revoir.
Tremper des clous dans le vinaigre.
Non, mais c'est une superbe histoire d'amour. Parce qu'il va écrire.
La fille va survivre ou non?
Elle meurt en bas âge au bout de deux ans, mais lui va quand même écrire les lettres à Sophie, qui sont un véritable chef-d'œuvre de la littérature romanesque. Hein. Non, elle, après, si vous voulez, lui va se lancer dans sa carrière politique, il a d'autres histoires d'amour, il doit s'occuper de son histoire de divorce, bon, donc il l'a un peu laissé tomber, il faut le dire, c'est pourquoi la malheureuse Sophie de Ruffet, oubliée, douloureuse, solitaire, elle met fin à ses jours. Le 9 septembre 1780, elle s'enferme dans sa cellule où elle a allumé 2 réchauds remplis de charbon et pour ne pas courir le risque d'échapper à la mort, elle s'attache par le pied à son lit et elle attend les effets de l'asphyxie. Elle avait 35 ans. On raconte que c'est à l'Assemblée nationale que Mirabeau fut informé de la funeste nouvelle de sa mort. Il sortit avec un air désemparé et fut 2 ou 3 jours sans reparaître à l'Assemblée. Fin de cette belle histoire d'amour. En attendant, je suis quand même allée voir le château où se sont noués ses amours, à Nances sous Sainte-Anne dans le Doubs, c'est à une 40 km de Pontarlier. Figurez-vous que de nos jours, le château s'appelle le château Mirabeau. Alors moi, je me place du point de vue du mari cocu. S'il voit ça du haut du ciel, son château a été baptisé du nom de l'amant de sa femme. C'est quand même pas cool.
C'est pas cool.
Et ce que c'est que la notoriété.
ça peut vite se retourner contre vous.
Oui.
Le quiz se profile, les amis, vous restez avec nous. Benjamin Delsol, notre rédacteur en chef, qui est un garçon au grand cœur, m'a glissé dans l'émission. Mathieu, s'il y a un jour dans l'année où tu dois falsifier le résultat au profit de Stéphane, c'est aujourd'hui. Pour la 100e, ça pourrait lui faire plaisir d'avoir au moins l'illusion qu'il s'y connaît en histoire. C'est un peu dégueulasse, Benjamin, mais je suis d'accord. À tout de suite pour un quiz pas du tout bidouillé.
C'est pas gentil, ça.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est Magouille et compagnie, s'exclame régulièrement Stéphane à l'issue du quiz de culture G historique qu'il oppose chaque après-midi à Clémentine. Aujourd'hui, nous allons lui donner raison, puisqu'effectivement, pour la 100e édition de Bern to be alive, il n'est pas question que Stéphane perde. Jouons à Bern will be alive because we don't have the choice. Alors, question numéro 1 pour vous,
je vais exprès répondre faux.
Concentrez-vous. Question numéro 1, Stéphane. En France, quand Coco Chanel est décédée, la ceinture de sécurité était-elle obligatoire ?
Alors, non, elle n'était pas obligatoire parce qu'elle est morte en janvier 1971.
Et c'est 73, je crois, la ceinture,
et
non ?
Et elle est morte en 71 puisqu'on fête la laissée, enfin on fête...
On commémore.
Pas non plus le 50e anniversaire de la mort de Coco Chanel. Non, c'était il y a 50 ans, je crois pas. Je crois pas qu'elle c'était déjà obligatoire en 71.
Vous avez gagné.
Même pas besoin de trafiquer quoi que ce soit. C'est la bonne réponse. Effectivement, non, en agglomération comme hors agglomération d'ailleurs. Juillet 73, port de la ceinture obligatoire hors agglomération.
Bon, là quand même, c'est triomphal.
Et 1979 seulement, oui, voilà. Ceinture obligatoire donc, également en agglomération. Oui. Coco Chanel est morte en 1971 exactement, Stéphane. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Pasteur a beaucoup fait contre la rage, ça on le sait. Mais il a également beaucoup fait pour la consommation de cidre, vrai ou faux ?
Il a fait beaucoup pour la consommation de bière et non pas de cidre. Donc je réponds non.
Vous avez gagné !
Quiz beaucoup trop facile pour nos deux poids lourds de l'histoire aujourd'hui. Effectivement, c'était un petit piège. Pasteur n'a rien fait pour le cidre. En revanche, il a beaucoup fait pour la bière. En 1871, à Chamalières, il arrive à réduire les ferments parasites produits par des poussières. En fermentant à l'abri de tout contact avec l'air, la bière va connaître un véritable essor. Entre 1870 et 1914, la production française de bière passe de 7 à 16 millions d'hectolitres. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Espérons qu'elle soit un peu plus difficile que les autres. En 1561, Blaise Pascal a eu l'idée d'employer des carrosses pour faire les mêmes trajets dans Paris à des horaires prédéfinis. On peut dire qu'il a eu avant tout le monde l'idée des transports en commun. Vrai ou faux ?
C'est exact, Stéphane.
C'est vrai.
C'est les carrosses à Saint-Saul. C'était vraiment un homme qui déployait son génie dans tous les domaines.
En tout cas, il l'a raconté, oui.
La Pascaline, la première machine à calculer,
exactement.
C'est aussi Blaise Pascal.
Pascaline.
Oui.
Vous avez perdu.
Oh. C'est absolument dégueulasse, c'est un piège terrible. En 1561, Blaise Pascal n'était pas né, mais il a eu effectivement cette idée un siècle plus tard, en 1661.
Oh, oui.
Non,
oh,
non, non, un petit piégeouné.
C'est dégueulasse.
Pour le Stéphane
Ouessi. Alors là, c'est
inique. En 1662.
Oui, bien sûr. Ben, on le sait que c'est pas 1561, Pascal. Mais évidemment, on est concentré sur...
Évidemment. C'était comme le 95B l'autre jour. C'est pareil, vous étiez concentré.
C'est lamentable.
T'es concentré.
Ah non.
C'est lamentable.
Ah non.
Et vous savez quoi ? On donne le point à Stéphane. C'était la bonne réponse. En 1662, un arrêt du Conseil du Roi instaure ces carrosses. Et finalement, on arrête en 1677. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas assez de carrosses et parce que les nobles répugnent à fréquenter les gens du bas-peuple.
Exactement.
Voilà. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Est-ce que Christian Dior a pu utiliser des Kleenex ? Oui ou non ?
Alors là...
C'est vrai que c'est cet objet qu'on utilise tous les jours, est-ce que ça existait du temps de Christian Dior ?
En tout cas, lui n'en avait pas, ça je le sais, il avait toujours des
très beaux mouchoirs.
Des mouchoirs brodés en tissu, ce qui ne sont pas très Covid compatibles.
Je n'ai aucune idée de l'époque à laquelle on peut être la cellulose sous forme de Kleenex, comme ça, de mouchoirs très très fins. Moi je dirais non, je dirais non.
Moi je dirais oui, mais je sais pas.
Là, moi je vous incite à plus réfléchir,
moi,
ça m'arrange.
Oui. Je dirais oui.
Bon, bah, si c'est toi, si vous m'incitez à réfléchir quand je dis non, je vais donc dire oui.
Quand le choix est fini.
Vous avez gagné.
Oh oui, exactement. Bien joué, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, et en plus, j'avais dit oui.
Christian Dior est mort en 57, les amis. Les premiers Kleenex apparaissent en 1924. Ce sont à l'origine des produits pour se démaquiller.
1924,
tel que je vous le dis. Question numéro 5, c'est la
question... Je méritais de perdre, parce que là, vraiment,
non,
j'étais
non,
pas
non,
du
vous
tout.
Ne méritez pas de perdre. Mmh. Vous êtes tous les deux fabuleux. Question numéro 5, trois propositions. C'est la rapidité qui va vous départager. Attention, approchez-vous du micro. Sapar Murat Niyazov a dirigé le Turkménistan de 1990 jusqu'à 2006. Ça, on le savait tous. Voici un dictateur qui ne manquait pas d'imagination. Il a décidé des choses étonnantes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quatre propositions. 1. Il a remplacé le nom du mois d'avril par celui de sa mère. 2. Il a interdit la musique enregistrée. Il fallait que tout soit live. C'était pas super pratique à la radio. 3. Il a voulu faire construire un zoo dans le désert avec des pingouins. Ou 4. Il a fait les trois trucs que j'ai dit avant.
Les trois trucs que vous avez dit avant.
Oh, la vivacité du côté de Stéphane pour cette centième. C'est la victoire. Il a tout fait. En 2005, il a promis des élections libres en 2009. Mais pas de bol, il est mort en 2006 d'un arrêt cardiaque. On n'a pas vu cette dernière proposition. Je n'avais pas connaissance de ce Niyazov. Vous le connaissiez, vous ?
C'était un créatif, en tout cas, hein, ce monsieur. Il a donc supprimé le mois d'avril.
Oui, ça je sais, pour hommage à maman.
Ouais. Ça, vous aviez entendu
c'est
parler
beau,
de ça.
C'est beau en même temps, cette piété filiale.
Et imaginez la musique enregistrée. Imaginez qu'à la radio, là, on soit obligé d'avoir Julien Clerc.
C'est bien aussi, ça faisait vivre le spectacle vivant.
Oui, c'est bien.
C'est un dictateur sympathique.
Et il y aurait moins de disques.
Et plus de live. Effectivement, Stéphane, ne nous tirons pas une balle dans le pied. C'était une belle victoire de Stéphane Bern pour le centième quiz.
Je m'incline devant mon vainqueur. Ouais.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, mieux, au cœur de la centième d'Historiquement vôtre. C'est la fête cet après-midi sur Europe 1. Programme exceptionnel, Stéphane, puisqu'on va parler de Demis Roussos, on va écrire sur les murs, il y aura un happening graffiti avec David Castello-Lopez, Olivier Poul va nous faire son imitation de la poule.
Pas mal, hein?
C'est vraiment un très très beau programme qui nous attend autour de trois personnages qui avaient un point commun, celui d'aimer écrire ou peindre sur les murs.
Oui, absolument Mathieu. Après la femme préhistorique, je vais vous parler de Jean-Michel Basquiat. Vous savez, le peintre précurseur qui lui dessinait sur les murs et sur tout ce qu'il trouvait. Et de votre côté, vous évoquerez, je crois, un artiste au moins aussi coté que Basquiat.
Pour les plus jeunes, il est juste un drôle de monsieur poilu qui ressemblait à Pavarotti en cheap. Pour nous, il est et restera à jamais Demis Roussos.
Non mais attendez,
c'était
quand même un monsieur assez épais, avec plein de poils partout, avec une voix
très aiguë. Oui.
Il était le grec le plus connu en France avant Nikos Aliagas. Alors... Sans oublier évidemment nos chroniques dans l'émission.
Ah non.
David Castello-Lopez qui nous raconte les origines de.
Bah de la bombe à peinture,
oui.
Puisqu'on peint sur les murs, Stéphane.
Puisqu'on peint sur les murs.
Tout se tient toujours avec David Castello-Lopez.
Tout se tient. Et ce qui se tient aussi, c'est cet échafaudage de crème pâtissière.
Et de pâte feuilletée. Le millefeuille, un dessert. Ah. C'est un de mes desserts préférés. Oui, je vous le dis, pour la centième, les amis, je voulais partager.
Le 18e dessert préféré.
Ah,
vous
en avez,
oui, parce que
vous en avez beaucoup, c'est vrai que vous...
En fait,
c'est vrai,
non, mais j'en ai... Le baba au rhum, c'est votre préféré.
Vous avez raison, j'en ai au moins 15 qui sont premiers ex aequo.
Ah voilà, c'est, voilà, c'est...
Et vous savez qu'en fait, Olivier est un acteur. En fait, il est vegan dans la vie. Ouais. Il consomme.
Et il mange pas de sucre.
Mais surtout, est-ce que vous savez combien il y a de feuilles dans un millefeuille? Je vous laisse le temps de.
Il y en a 1000 feuilles.
Non, ça va falloir compter. Il va falloir être plus précis que ça.
Ce jeu est idiot parce que ça dépend de la création du millefeuille.
Non, en fait. Vous allez voir.
Il faut respecter un nombre. Tiens. Le mot de la fin reviendra à Stéphane Bern. Chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui.
Bah, par exemple, si je vous dis vous êtes nul, Mathieu.
J'aime bien que quand vous partez en impro, Stéphane, le truc qui vous vient spontanément, le premier truc, c'est de dire que je suis nul.
Et donc, ça, je vous ai dit une vérité de but en blanc.
Vous m'avez dit de but en blanc, et d'où vient cette expression? De but en blanc, j'en ai aucune idée.
En revanche, je précise, vous êtes génial.
Ouais, c'est mieux. Mais vous l'avez dit aussi de but en blanc. Et tout de suite, Stéphane, la première fois que j'ai vu un de ces tableaux en vrai, c'était chez vous, l'autre soir, dans votre salon. Coup de foudre esthétique, vous nous racontez l'histoire trop brève de l'artiste Jean-Michel Basquiat.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a commencé par graffer, il a écrit, il a peint sur les murs des quartiers branchés de New York avant de devenir un artiste reconnu et d'inscrire à jamais son nom dans l'univers très fermé. Pourtant, des plus grands peintres contemporains, Stéphane Bern nous raconte la trop courte mais intense carrière de Jean-Michel Basquiat.
Nous sommes au beau milieu des années 70 et dans une rue de Manhattan, deux jeunes garçons écrivent un message un peu cryptique à la bombe aérosol sur la porte d'entrée de l'immeuble abritant la célèbre galerie d'art Léo Castelli. Un homme sort, les traite de voyous et menace d'appeler la police. Il est loin, très loin d'imaginer qu'il vient de hurler sur l'un des plus grands artistes américains de tous les temps, Jean-Michel Basquiat. Quand il commence à écrire sur les murs de Manhattan, Basquiat aime raconter qu'il a grandi dans le ghetto. Ce n'est pourtant pas un enfant des rues. Il est né à Brooklyn, en 1960, dans une famille de la classe moyenne. Son père, fraîchement débarqué d'Haïti, est comptable et Jean-Michel fréquente une école privée. Très jeune, il se passionne pour les arts grâce à sa mère qui lui en donne le goût. Ensemble, ils passent des heures devant le Guernica de Picasso, exposé alors au Musée d'art moderne de New York. Mais le divorce de ses parents et l'internement de sa mère en hôpital psychiatrique bouleversent cette enfance plutôt classique. Jean-Michel Basquiat ne s'entend pas avec son père trop rigide, trop exigeant. Les relations sont d'autant plus tendues qu'il est un adolescent turbulent, du genre à écraser une tarte à la crème dans la figure de son proviseur. À 16 ans, Jean-Michel quitte le foyer et abandonne l'école. Il dort à droite à gauche, squatte le canapé de ses amis dans le Lower East Side avant la gentrification, ravagée par les incendies et la criminalité. Dans ce New York underground, il se lie à des graffeurs, des musiciens. À l'école, Basquiat et son ami Al Diaz avaient une expression pour se plaindre de leur routine. « Same old », pour « same old shit », toujours la même chose. Un « gimmick »,« same eux », qu'ils utilisent désormais pour signer les messages politiques, poétiques, énigmatiques qu'ils laissent sur les murs. « Same eux » comme une forme de néo-art. « Same eux » comme une fin au faux pseudo intellectuel. Malgré cela, Basquiat n'est pas un authentique graffeur. Il n'atteint pas le niveau de ceux qu'il admire et côtoie comme Ramelzi, l'un des plus grands. Mais c'est un vrai artiste qui cherche encore son moyen d'expression. Le graffiti n'est peut-être pas son truc, mais il a décidé d'utiliser pour se faire remarquer. Il a de l'ambition, il avoue. Depuis que j'ai 17 ans, je pense pouvoir devenir une star. Basquiat ne peint pas sur les métros ni sur les trains de banlieue. Ses messages ciblent les gens cultivés des quartiers arty et branchés de Tribeca, de Soho. Et surtout, les galeries d'art. Basquiat est noir, il veut se faire remarquer et bousculer ce monde de l'art si exclusivement blanc. La dimension politique de son œuvre est déjà là. Jean-Michel Basquiat n'a pas un sou en poche. Rien pour s'acheter des toiles. Alors, il peint sur ce qu'il trouve, des frigos abandonnés, des portes trouvées dans les immeubles en ruine de ce New York en faillite. Ses messages sont ceux de sa génération. Il raconte les dangers de l'héroïne, le racisme, la misère, les inégalités. Le marqueur est son arme facile, rapide. Il s'adapte à tous les supports et colle à l'urgence des cris que Basquiat pousse. Ses influences sont nombreuses, mélange le pop art à ses origines haïtiennes et portoricaines. Il aime Picasso, les expressionnistes abstraits comme Pollock et Twombly et l'art brut. Il est marqué par les études de corps de Léonard de Vinci et le livre Grey's Anatomy, bible des étudiants en médecine que sa mère lui a offert à 8 ans alors qu'il se remettait d'un accident de voiture à l'hôpital.
Je viens de comprendre pourquoi la série s'appelle Grey's Anatomy.
Ça est vrai, vous l'avez vu? Mais oui, c'est ça.
Oui, je n'avais pas compris, je ne savais pas.
Par rapport à ses camarades, Basquiat a une force, son charisme. Il a de l'allure avec sa crête à l'iroquoise ou ses fausses dreadlocks dressées sur le crâne. À la table d'un restaurant, il aperçoit Andy Warhol. Il ose rentrer, l'interpelle et lui vend sa première œuvre pour $1. Une carte postale patchwork. Dans les boîtes de nuit du quartier, au Club 57, au Mud, Jean joue de la musique, vit une petite histoire d'amour avec Madonna et rencontre les gens qui comptent. Basquiat finit par être présenté officiellement à Warhol, à qui il fait grande impression en peignant en quelques heures le selfie qu'ils viennent de prendre avec le Polaroid de la star. Très vite, ils deviennent inséparables et collaborent. Basquiat inspire Warhol qui en retour offre de la visibilité aux jeunes artistes qui commencent même à exposer. L'année 81 marque l'ascension du Radiant Child, comme le surnomme un article de l'influent magazine Art Forum. Une grande marchande d'art lui offre d'installer son atelier dans le sous-sol de sa galerie. L'année suivante, il expose chez Larry Gagosian, l'un des plus importants marchands d'art contemporains. Il n'a que 20 ans. Mais l'enfant prodige est aussi miné par ses addictions à la drogue et à l'alcool. Il vit cloîtré, regarde la télé, peint la plupart du temps. Il produit plus de 2000 dessins et tableaux, mêlant peinture et collage, signes, manuscrits et illustrations, ou très volontairement enfantins, dans une explosion de couleurs. Son style, Basquiat, est une étoile filante. En seulement 7 ans, il est passé de la rue au monde très fermé des galeristes et collectionneurs d'art et a donné au street art, encore considéré par beaucoup comme du vandalisme, ses lettres de noblesse. En 1987, la mort de Warhol l'affecte terriblement. Il meurt quelques mois plus tard, à 27 ans, en sortant d'une cure de désintoxication. En 2017, l'une de ses œuvres, Untitled, figurant un crâne noir sur fond bleu, est vendue à 110,5 millions de dollars, faisant entrer Basquiat dans le club très fermé des artistes les plus chers de tous les temps, aux côtés de Bacon et de Picasso. C'est aussi le premier artiste américain à atteindre un tel prix. Son succès et sa reconnaissance par le milieu de l'art, tout comme les thèmes qu'il aborde dans ses peintures, font aussi de lui une figure de l'afro-américanisme. Mais si l'antiracisme était l'un de ses combats, Basquiat devait aussi régulièrement rappeler « Je ne suis pas un artiste noir, je suis un artiste. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Michel Basquiat, nous sommes avec le réalisateur Jean-Michel Vecchier qui lui a consacré un documentaire. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Basquiat, on va revenir sur sa trajectoire incroyable avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On écrit sur les murs aujourd'hui à l'occasion de la 100e d'Historiquement Vôtre. Lui a commencé par écrire sur les murs aussi, l'artiste Jean-Michel Basquiat. On en parle avec notre invité à nous, l'auteur et réalisateur Jean-Michel Vecchier.
Oui, bonjour Jean-Michel Vecchier. Vous avez réalisé le documentaire Basquiat, une vie, que vous avez tourné à New York en interviewant ses amis, ses proches. Et une vie, et quelle vie! Au fond, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans sa vie? Qu'est-ce que vous avez découvert vous-même en réalisant ce documentaire?
Alors, ce que j'ai découvert surtout, et je l'avais aussi découvert dans l'entourage de Andy Warhol ou de Picasso, c'est qu'en fait, des personnages comme Basquiat aimantent les personnes qui vivent avec eux, qui les entourent. Ils sont comme irradiés à vie. C'est-à-dire que quand j'ai tourné le film sur Basquiat, c'était plusieurs années après sa disparition, les gens avaient encore l'empreinte de cette sorte de comète qui les avait marqués. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvée commune à l'ensemble de ces grands artistes qui ont eu des vies foudroyantes, comme Jimi Hendrix aussi, ou Janis Joplin, ils sont tous morts au même âge, mais malgré ce, des années plus tard, on continue à parler d'eux et effectivement, on continue à voir ou à écouter leurs œuvres.
Alors, vous êtes allé tourner dans les rues de Manhattan sur les traces de Basquiat, le graffeur. Est-ce qu'on peut vraiment dire graffeur, d'ailleurs, pour parler de Basquiat?
Écoutez, je crois que, bon, d'abord, c'est l'époque. Hein, il ne faut pas oublier que New York est détruit. New York est en état de guerre. New York est une sorte de ruine. La ville de New York, à un moment donné, ne peut plus rien payer. Tout est détruit. La ville est détruite. C'est une ville en état de guerre. Et au milieu de cette ville en état de guerre, évidemment, les artistes vont pouvoir trouver de quoi se loger, de quoi vivre. Ce n'est pas le New York d'aujourd'hui, finalement. Le New York d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qui était le New York du début des années 80.
L'art de son collectif, là, dont Stéphane parlait, Seymour, ça ne ressemblait pas du tout au graffiti qu'on voit dans les rames de métro à Paris. C'était de la poésie, de la politique sur les murs. C'était quel genre de mots, de phrases, par exemple?
Bah, c'était, par exemple, une des phrases qu'écrivait Basquiat sur les murs, c'était quelque chose d'obsessionnel, c'était « Origin of Cotton ». L'origine du coton. Et en fait, l'origine du coton, évidemment, c'est le Sud, c'est le Mississippi, c'est l'esclavage, ce sont aussi finalement ces Noirs qui sont arrivés d'Afrique et qui ont dû travailler pour les Blancs pendant des siècles. Et donc, Origin of Cotton, c'est plus que de la poésie, c'est un marqueur politique. De toute façon, chez Basquiat, tout est politique.
Et il y a c'est un bon stratège aussi. Je l'ai raconté, Basquiat ne grave pas n'importe où, il grave près des galeries d'art. Il ambitionnait d'être exposé, il voulait rencontrer les gens qui comptaient, il a fréquenté Warhol, Madonna, il avait une ambition vraiment.
Bah, pas folle la Guépin, c'est-à-dire que Basquiat enfant avec sa mère Mathilde va faire tous les musées de New York, le Brooklyn Museum d'abord, qui est le grand musée de son quartier, puis le MoMA, et il va traîner avec sa mère, enfin traîner, façon de parler, elle va l'amener partout, elle va initier son fils à la peinture. Alors évidemment qu'il connaît très bien le quartier où se situent les grandes galeries. Vous avez parlé, Stéphane, tout à l'heure de la galerie de Leo Castelli, mais d'autres galeries sont présentes aussi, et il va pas aller graffer au bout de Brooklyn, il va évidemment graffer dans le East Village, pour qu'effectivement on le remarque. Hein. De toute façon, ces phrases qui l'impriment, elles ont été déjà présentes énormément dans la chanson Jill Scott Heron a écrit en 1970 « La révolution ne sera pas télévisée ». C'est un peu l'empreinte pour le hip-hop, pour le rap et pour les peintres comme Basquiat qui vont suivre. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent de ces mouvements issus des mouvements des human rights du début des années 60.
Jean-Michel Becquet, quand on est un peu étranger au milieu de l'art contemporain, ce qui est par exemple mon cas, on a du mal à comprendre pourquoi un tel succès, une telle cote, aussi vous, Stéphane, citez le prix de certaines œuvres, pourquoi lui et pas un autre? J'imagine qu'il s'inscrivait dans tout un mouvement à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il est devenu mythique comme ça aussi par sa mort à 27 ans?
Alors mythique il était de son vivant, c'est ça qui est absolument hallucinant. Suzanne Malou, qui a vécu des années avec lui, qui est restée amie après avoir été sa compagne, disait que Basquiat s'est fait en un an. C'est-à-dire que la première toile qu'il a vendue est une toile achetée par Debussy. Il la vend 200 $. Un an plus tard, toutes ses toiles se vendent 20 000 $. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, Basquiat devient riche et célèbre.
Mais il n'y a pas d'explication logique à ça.
Alors, si, il y a une explication logique à ça. L'explication, c'est qu'en fait, il y a cette sorte de boom à Wall Street qui avait été reprise dans un célèbre film des années 80 où on voit les boursicoteurs commencer à acheter des immenses appartements de 500 mètres carrés et il faut des grandes toiles. Et Basquiat, comme d'autres peintres, peint des grandes toiles. Et effectivement, ça va être une frénésie et évidemment, l'emblème suprême, c'est que lui est noir. Et qu'avoir la toile d'un peintre noir qui est dans une grande galerie, c'est le plus, quoi. Donc, Basquiat, de son vivant, va faire la couverture du New York Times. C'est la première fois qu'un artiste noir va faire la couverture du New York Times. Et là, il devient un mythe.
Oui, mais alors, c'est un mythe. Et en même temps, on est toujours surpris quand on raconte la vie dans cette émission de grands artistes. C'est que le prix à payer est très lourd. C'est-à-dire qu'il est riche, il est célèbre, il a une vie courte, il est malheureux, il est dépendant aux drogues. Il avait prévu d'aller se soigner, d'ailleurs, par de la sorcellerie, je crois, en allant voir des chamans en Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez? On sait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même.
Ben, Suzanne Malou, qui est aujourd'hui psychanalyste, psychiatre et qui a été sa compagne, dit qu'en fait c'était un hypomaniaque, mais c'était surtout un dépressif. Et donc ils ne fonctionnaient tous, parce que tous fonctionnaient là-dedans dans cette ville chaos, ils fonctionnaient tous à l'héroïne et à la cocaïne. Et on sait très bien que les addictions peuvent maximaliser les dépressions. Et Basquiat, avec qui sa courte vie sous la dépression, il disait un jour à Bruno Bischofberger, qui a été son grand marchand en Suisse, qu'il a amené effectivement en Côte d'Ivoire, il lui disait, tu sais Bruno, je suis quelqu'un de très malheureux. Donc il y a la formidable œuvre en train de se faire, mais il y a aussi un désespoir profond.
Mais écoutez, merci beaucoup Jean-Michel Becquet. Je rappelle votre documentaire Basquiat, une vie, qui est disponible en DVD chez Arte Éditions. Et dernièrement, vous avez signé un documentaire sur l'immense photographe de mode Peter Lindbergh, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui avaient la manie d'écrire sur les murs. Après la femme préhistorique et Jean-Michel Basquiat, il aurait été normal, Mathieu, que vous nous parliez d'un personnage vivant.
Oui.
C'est votre rôle, je vous le rappelle, dans cette émission. Mais non, aujourd'hui, votre personnage, à vous aussi, il est mort.
Laissez-moi m'inscrire en faux, Stéphane. Mon personnage n'est pas mort, mon personnage est immortel. C'est la seule personne qui a écrit sur les murs avec sa voix, et le résultat est encore plus dégueulasse qu'avec les doigts, c'est Demis Roussos. Car oui, outre la démocratie, le tzatziki, la crise de la dette publique européenne et la résidence secondaire de Stéphane à Paros, la Grèce nous a également offert, au tournant des années 70, une star de la chanson comme on n'en fait plus aujourd'hui, à savoir de forme cubique et non épilée au-dessus de la ligne de flottaison, ni en dessous d'ailleurs je crois, un artiste à qui l'on doit ses paroles inoubliables.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta.
comme je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi comme la rivière au delta. Hein, tout de suite, on se dit...
Et c'est très très con, hein.
Non, c'est très très beau, David. C'est très très beau. C'est beau. C'était en tout cas la vie de ma grande-tante, Ursula Noël, qui est morte en serrant contre son cœur l'album Christmas with Demis Roussos. Mérite de contenir, déjà, Il est né, le divin enfant, par Demis Roussos, et un coffret richement illustré avec des photos de Demis déguisé en Père Noël, dont on croit qu'il s'agit en fait de Gustave de Kervern déguisé en Père Noël pour un sketch de Groland, mais non, c'est vraiment Demis Roussos au premier degré. Alors par où commencer, je ne sais pas. Malgré ses multiples prises, Demis est un personnage qui se laisse difficilement saisir. Il est désormais essentiellement un mythe, une sorte de totem kitsch dans l'esprit des millennials, pour qui le nom de Demis Roussos évoque un vieux 45 tours posé à côté d'un cendrier débordant de gitane dans une France des années 80. Ces petits cons ignorant qu'ils ont été probablement conçus sur une de ces chansons, et probablement celle-ci. Double choc de découvrir simultanément comment nous avons été conçus et que nos parents avaient des goûts de chiottes. Notez que pour certaines générations avant nous, c'est pire. Hein, Stéphane Bern, par exemple, ayant été conçu sur Régine, si j'ose dire.
Ouvre la bouche, ferme les yeux.
Tu verras, ça glissera mieux.
Stéphane qui est d'ailleurs l'enfant du miracle, car en procédant de la sorte, on ne voit pas trop comment ses parents ont réussi à le faire. Bref, ma chronique a commencé depuis 17 minutes déjà et je ne vous ai encore rien dit de Demis. Peut-être parce qu'au fond, on s'en fout. Peut-être parce que j'entretiens le suspense, parce que vous aimez ça, mes fiévreuses canailles. Ok, résumé. Demis Roussos, c'est d'abord le chanteur du groupe Aphrodite Child, puis une carrière internationale en solo, et enfin, après son décès, la reprise d'un de ses titres phares par un groupe constitué d'enfants chanteurs maléfiques envoyés sur Terre pour détruire l'espèce humaine.
On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime.
Personne, à mon sens, ne mérite ça. Demis, ou plutôt Artemios Venturis Roussos, voit le jour le 15 juin 46 à Alexandrie. Selon la coutume grecque, oui, Alexandrie, mais il est grec, le bébé a été nommé d'après son grand-père paternel, Demis étant le diminutif affectueux de D'Artemios. Il grandit au cœur d'une communauté orthodoxe au sein d'une ville musulmane. Dès sa petite enfance, il est plongé dans la musique folklorique, exposé aux influences byzantines et arabes. Il aime chanter et rejoint le chœur de l'église grecque byzantine en tant que soliste. Pendant 5 ans, il va étudier le solfège, la guitare, la trompette et évidemment la découpe des aubergines pour une moussaka réussie. Non, j'essaie de voir si vous suivez Stéphane, vous ne suivez pas. À 15 ans À 15 ans, les Roussos décident de rentrer en Grèce, à Athènes. Artemios commence à jouer dans des petits groupes. Comme nom de scène, il opte pour le surnom de Demis, parce qu'à l'export, pour une star, deux syllabes, c'est mieux, comme aujourd'hui, par exemple, Stéphanie Germanotta, qui est devenue Lady Gaga, ou à l'époque, Jean-Pierre Boulard, devenu Michael Jackson. Demis, vous suivez là. Demis est d'abord guitariste et bassiste, puis vers 66-67, au même moment où en France Stéphane réalise qu'il n'a pas de voix.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Demis lui réalise qu'il en a une grosse, voire même une très grosse. Il rencontre le musicien Vangelis Papathanasiou, dont le nom malheureusement n'est pas autorisé par les règles du Scrabble, et ils fondent en 67 le groupe Aphrodite Child, dont tout le monde connaît le tube psychédélique Rain and Tears. Mais tout ça n'est rien à côté du tube de Demis qui va forger sa légende. Ce slow langoureux qui va permettre un soir de 73 à la sortie du Léon de Bruxelles de la Grand Place à Olivier Pouls d'emballer sa target de l'époque, la gironde et appétissante Samantha Van Bruggel, à qui il susurra. Ouais, t'inquiète pas, moi aussi je suis bourré, moi non plus, je parle pas anglais, embrasse-moi mon con, qu'elle te dira. Et pile au moment où Olivier et Samantha fusionnent dans un motel de Charleroi, Demis et Vangelis, eux, se séparent, l'un deviendra, ben, Vangelis. Le chariot de feu, Demis, lui, deviendra... Et c'est une très bonne chose, car même si rétrospectivement c'est un succès qui peut paraître incompréhensible, comme celui du Jokari ou des L5, Demis fait un carton. Avec ses longues tuniques colorées, sa barbe fournie, il enchaîne les tubes pop aux influences gréco-orientales avec salade, tomate, oignon et sauce blanche. Vous suivez toujours Stéphane, c'est
oui,
bon,
oui, c'est bien.
Alors j'abrège. En gros, pour resituer un peu, aujourd'hui Warner se paluche quand Benjamin Biolay vend 200 000 albums. En seulement un an de carrière solo, Demis lui vend 2 millions d'albums. Un journaliste anglais lui consacre même un documentaire intitulé The Demis Roussos Phenomenon, soit David.
Le phénomène Demis Roussos.
Magie de l'école Montessori. Mais... Demis est un phénomène et les moqueries qui commencent à fleurir sur ses poils et sa corpulence ne l'atteignent pas. Il déclare serein et malicieux. Je n'ai pas été offensé, je me suis beaucoup amusé avec et j'ai fait beaucoup d'argent. Il a même remporté des paris, Stéphane. J'ai organisé deux concours, explique-t-il. Le concours de celui qui peut manger des pâtes le plus vite possible et le concours de celui qui peut manger plus de pâtes que moi. Bien entendu, j'ai rarement perdu, conclut-il. Changement d'ambiance en 85. La star est à bord du vol TWA 847 en direction d'Athènes. Peu de temps après le décollage, deux pirates de l'air libanais détournent l'avion. Demis se retrouve pris en otage. Il sera heureusement libéré après plusieurs jours d'angoisse. Enfin, angoisse pour ses proches à l'extérieur de l'avion, car Demis racontera plus tard combien les pirates de l'air avaient été cool. Notamment en lui souhaitant son 39e anniversaire avec un gâteau et une guitare pour qu'il puisse chanter. Des terroristes comme on n'en fait plus, c'était l'époque du terrorisme chaleureux où tout se terminait en chanson. Alors, comme j'ai beaucoup d'affection pour Demis, je passerai vite sur les années 90 qui ne seront pas les meilleures pour sa carrière. Mais vous savez quoi ? Il s'en fout pas mal, Demis, puisqu'à sa mort, en 2015, à 68 ans, il a vendu près de 60 millions de disques, 55 millions de plus que Benjamin Biolay. Il aura contribué au dépucelage de plus de 130 millions d'adolescents, dont Olivier Pouls. Alors franchement, avec un si beau palmarès, croyez-vous vraiment, Stéphane, qu'il méritait ça ?
On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime.
C'est vrai que c'est dur.
Non, c'est compliqué, ça. Moi, j'adore les Kids United. Je veux pas d'ennui.
Je trouve pas ça si mal.
Moi aussi, j'aime beaucoup.
Et merci, Mathieu. C'est 99% vrai. Je vais vous dire...
Vous avez connu Demis Roussos.
J'ai connu assez bien Demis Roussos. Mais si vous voulez, le personnage était assez sympathique, mais après la prise d'otage...
Il avait changé.
Les gens étaient devenus un peu fous.
Il était devenu un peu mystique, je crois.
Oui, assez mystique, assez bizarre. Mais très chaleureux, comme le sont les Grecs quand ils ont un peu de moussaka et de feta.
Je reviens
aux Kids United.
Oui,
un autre Mathieu qui officie sur cette merveilleuse station,
oui.
Mathieu Béliard, pour ne pas le citer, eh bien, ses enfants sont fans des
vrai.
Kids United.
Alors on le respecte.
Et ils ont appris
je me casse.
Qui était Demis Roussos grâce à cette chanson.
Ah oui, et ils n'ont pas été déçus. Je pense qu'ils ont eu les photos, ils n'ont pas eu peur.
Et il a un de ses fils, m'a-t-il confié, qui s'est mis à peindre sur les murs.
J'ai cru qu'il l'avait appelé Demis son fils en hommage à Demis Roussos.
Je suis désolé, c'est bien cette chanson.
C'est validé par l'univers bobo en général.
Quand David dit c'est bien, il sait mieux, c'est cool.
C'est tendance. C'est branché, c'est chébrant. C'est les un rock adore maintenant Kids United.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui écrivaient sur les murs pour entrer Mathieu, Mathieu, dans l'ultime demi-heure de la 100e édition d'Historiquement Vôtre.
Et oui Stéphane, 100 émissions déjà et autant de fous rires, notamment sur cette dernière demi-heure où vos chroniques m'ont souvent permis d'exprimer le meilleur de moi-même et de prouver à quel point j'ai su décidément un esprit vif. Chronique qui vous révèle aujourd'hui l'origine d'une expression, les propos sibyllins.
Mais oui, d'où ça vient ?
Ben, ça doit venir de sibyllin, le mot sibyllin. Oui, la dernière demi-heure, c'est pas simple, il faut rester concentré jusqu'au bout, on a beaucoup donné avant. Et notamment pour le mot de la fin, vous serez très concentré Stéphane.
Oui, de but en blanc.
De but en blanc,
d'où vient
cette expression
on dit de but en blanc quand on est straight to the point.
Vous êtes tellement bilingue, c'est fou, ça me fascine. Les millefeuilles, d'où nous viennent ces délicieux millefeuilles qui font notre délice au moment du
et
dessert.
Et surtout, n'y a-t-il pas une arnaque ? Y a-t-il vraiment millefeuilles ?
Non, c'est comme le mille-pattes.
Vous avez compté les pattes d'un mille-pattes ?
Oui, 697 en moyenne, enfin quelque chose comme ça, c'est loin de 1000. Et tout de suite, la chronique qu'attendent tous les bobos, mais pas que, tous les Français en général, l'homme qui aime les Kids United au 6e degré, c'est bien évidemment David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'une invention, aujourd'hui, comme on parlait de ceux qui écrivent sur les murs.
La peinture en bombe.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il a fait toutes ses études dans une école Montessori. Il a fort à parier qu'il n'a jamais utilisé l'objet dont il va nous parler aujourd'hui. David Castello-Lopez, vous nous racontez l'origine de la bombe, de la peinture en bombe.
Tout à fait. Et je vais commencer par vous avouer quelque chose. Moi, j'aime pas les tags. Voilà, j'aime pas les tags.
Je le savais.
Du point de vue des tags, je suis totalement réactionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit sur la Terre que je trouve mieux avec des tags que sans. C'est toujours mieux sans. Les tags, à mon sens, ça rend les choses laides, désagréables à regarder. Sans compter aussi qu'il y a quand même une grosse frange des taggeurs qui ne taguent que pour une seule raison complètement primitive, à savoir marquer leur territoire. Et plus l'endroit où ils taguent est difficile d'accès, plus c'est glorieux. Dans une certaine mesure, le tag, c'est une sorte de gigantesque concours de zizi qui se fait au prix d'une dégradation de l'espace public. Alors, j'ai vu quelquefois des gens tagués dans la rue et à chaque fois, j'ai eu envie d'aller les voir, de prendre une bonne intonation de ministre de la 3e République, vous voyez, et de leur dire excusez-moi monsieur, mais il me semble que c'est ce que vous faites est interdit. Voilà, mais je le fais pas parce que j'ai peur de me faire casser la gueule. Mais j'ai un ami qui l'a fait et qui s'est fait casser la gueule. Voilà. Alors moi aujourd'hui, je vais pas vous parler des origines des gens qui écrivent leur nom sur le mobilier urbain. Je vais vous parler de ce qui permet à ces gens-là de faire ce qu'ils font, à savoir la peinture en bombe. D'où ça vient la peinture en bombe ? C'est assez simple en fait. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelait Ed Seymour, un Américain encore. Ed, il était gérant d'une société de peinture. Et il cherchait une façon de faire la démonstration d'un super revêtement en aluminium pour radiateur qu'il avait en stock. Sa femme lui a dit, mais pourquoi tu mets pas ton revêtement
dans...
Pourquoi tu mets pas ton revêtement dans un aérosol? Il sait exactement ce qu'il a fait, il a testé, ça marchait super bien. Et en 1949...
Donc c'est elle qui a eu l'idée, pas lui.
C'est elle qui a eu l'idée et il l'a appliqué. C'était un travail commun, mais c'est peut-être une femme oubliée de l'histoire.
Comme la femme préhistorique, Stéphane.
Tout à fait. Et en 1949, Ed, il a sorti la première bombe de peinture de l'histoire de l'humanité. Et il en a fait un business qui a fleuri. Et un peu plus de 20 ans plus tard, non seulement lui, mais aussi d'autres fabricants de peinture, on vendait aux États-Unis des centaines de millions de bombes de peinture par an. Mais le but de ces bombes pendant tout ce temps-là, c'était avant tout de peindre des trucs. Hein, c'était par exemple, je sais pas, on peignait avec un radiateur, une chaise, un ami, voilà. Mais c'était pas le but, c'était pas d'emmerder le monde en écrivant son nom sur de la pierre de taille, vous voyez. Mais alors qui est le type qui a décidé que ce serait cool de faire ça? Qui porte sur lui la responsabilité d'avoir changé pour le pire le visage des villes du monde, à mon sens toujours. Alors c'est dur à dire, mais en tout cas, c'était dans les années 60 et il y a deux pionniers dont le nom revient souvent, un certain monsieur Cornbread qui écrivait donc Cornbread sur les murs, et un autre monsieur dont on ne connaît pas le nom exact, mais qui dans les années 60 à New York a commencé à écrire partout Julio 204, 204 étant le numéro de la rue dans laquelle il vivait. Alors depuis, le tag, et plus généralement le street art, il a reçu une sorte d'onction académique, hein, on l'a vu avec Basquiat, il y a eu des expositions de street art dans les plus grands musées du monde, ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation un petit peu étrange, parce que d'un côté c'est toujours illégal d'écrire son nom à la bombe sur des rames de métro, mais en même temps, c'est un peu une pratique validée par des instances non juridiques, hein, les instances de l'art contemporain. Et aujourd'hui, il y a même des marques de bombes de peinture qui sont évidemment, qui sont spécifiquement conçues, pensées pour le tag et le graffiti. Moi, personnellement, j'appelle ça des collabos. Mais bon, ça, c'est moi. Fin de la chronique réactionnaire. Merci beaucoup.
Je ne vous connaissais pas si réac, David.
Sur ce point-là, ouais.
Uniquement sur ce point.
Voilà. Voilà. Peut-être vous donner votre après... adresse, comme ça, on ira faire. Ouais. Non,
c'est pas ça, c'est... Après, il faut remettre en état.
Oui, bien sûr. Oui,
mais... On ferait des impôts, quand même.
Attends, je suis pas un spécialiste de l'art urbain, mais je crois que maintenant, il y a des endroits qui sont un peu dédiés à ça. Certains murs qui sont, par exemple, très moches, très laids.
Il y a
on
des
décide
fresques.
Soit de les végétaliser, soit de faire une fresque.
C'est mieux quand c'est végétalisé, en fait.
Bah, pas forcément. Aux abords du canal Saint-Martin, il y a un joli mur où il y a pas mal de
mais après, si on décide démocratiquement ensemble de dire, bah, ce mur-là a besoin de quelque chose et qu'on fait un petit appel d'offres et que c'est un graffeur
Il faut que ça soit bien. Vous auriez dû être suisse.
Mais j'ai un côté suisse et psychorigide de ce point de vue-là.
Vous viendrez à Genève, vous voyez, il y a des très beaux tags qui sont très très bien rangés dans des espaces prévus pour ça.
Mais c'est un peu comme le millefeuille, vous voyez. Vous, le millefeuille, il faut qu'il soit bien calibré, autant de feuilles qu'il faut et autant de crème pâtissière qu'il faut.
Pas de place pour la médiocrité. Dans le millefeuille, vous nous racontez l'origine du millefeuille et comment le réussir. À tout de suite, Olivier Pouls.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire, c'est aussi l'histoire de la gastronomie. Et en cette centième, je crois, Stéphane, que vous avez un message solennel à adresser à tous les gourmets qui nous écoutent.
Arrêtez la coke et prenez de l'œuf.
C'était un message du monsieur patrimoine du gouvernement. Bravo Stéphane.
Non,
pour cet engagement citoyen.
Tout est faux dans votre phrase. D'abord, c'est pas un engagement. Je suis pas monsieur patrimoine, mais ni du gouvernement.
Mais Stéphane, quand est-ce que vous avez dit ça? C'est pas un montage. Hein.
Non, mais j'ai dû dire ça quand on a parlé de l'œuf.
De ces poules. Elles vont bien, vos poules, d'ailleurs?
Elles vont très bien, écoutez. Et elles se remettent à pondre, là. Parce qu'il y a toujours une phase...
Oui, c'est trop froid, peut-être. Ouais, ouais.
Mais là, ça y est, elles sont
bien.
Beaux œufs. Écoutez, moi, je vous en apporterai, si vous voulez.
Parce que pour ma recette, je vais en avoir besoin.
Ah, vous en avez besoin de combien? D'une douzaine?
Oui, mettez-moi une douzaine, oui.
D'accord.
Une douzaine d'œufs de chez Stéphane Bern, c'est la base de la recette du jour, le millefeuille.
Bah, il en faut pas 12, mais il en faut quelques-uns, quand même, pour réaliser une bonne crème pâtissière. Alors, c'est vrai que le millefeuille, c'est un montage, une recette en fait assez technique parce qu'elle fait appel à plusieurs connaissances pâtissières. Il faut savoir faire la pâte feuilletée, il faut savoir faire la crème pâtissière et normalement même le glaçage qui va par au-dessus. La première recette de quelque chose qui ressemble à un millefeuille, c'est le XVIIe siècle. C'est dans son célèbre livre dont on a déjà parlé, le pâtissier François, Pierre-François de la Varenne, qui évoque un montage qui ressemble à ça. Mais à l'époque, c'est pas aromatisé à la vanille, mais au kirsch, au rhum. On va dire que vraisemblablement, le boom du millefeuille, c'est un petit peu plus tard, c'est 1867, c'est très précis, et les Parisiens découvrent dans la pâtisserie Sergent rue du Bac cette préparation qui va être un carton absolu. En quelques semaines, le bruit va se répandre, il va y avoir des queues incroyables devant cette pâtisserie pour acheter ce fameux millefeuille, donc combinaison de pâte feuilletée et de crème pâtissière. Alors, la pâte feuilletée, on y reviendra une autre fois. Je vous raconterai l'histoire assez passionnante, d'ailleurs, de la pâte feuilletée. Mais la pâte feuilletée, vous pouvez l'acheter, évidemment. Et la vraie question, c'est... Bon, on l'appelle un millefeuille, on l'a compris, hein, parce qu'il y a, évidemment, beaucoup de petites feuilles dans cette pâte feuilletée. Est-ce que vous savez combien il y en a, combien il y a de feuilles, justement, dans un millefeuille?
Moi, je dis qu'il n'y a pas un nombre précis.
Qu'est-ce qu'on compte comme une feuille? Est-ce que c'est un étage, ou alors est-ce que c'est les petits trucs à l'intérieur de l'étage?
C'est les petits trucs à l'intérieur de l'étage. Il y a trois étages, hein, déjà, puisque il y a deux étages.
Trois étages de cinq feuilles.
Ouais, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Ouais. Il y en a 729. Oh, très non, précisément.
Bidon. Non, pourquoi ça s'appelle la millefeuille?
Alors, bon, ça... Parce qu'un 729 feuilles, ça le fait pas, c'est compliqué. Non, mais vous savez, quand on fait de la pâte feuilletée, on fait ce qu'on appelle des tours. C'est-à-dire qu'on prend la pâte, on met du beurre, on replie, on met du beurre, on replie, ainsi de suite. Et on fait à chaque fois trois tours, et on fait 6 fois 3 tours. Alors, je suis pas super fort en maths, mais c'est validé. À force de faire ça, on arrive à 729 feuilles d'abesse. Donc voilà, ça c'est mathématique. Et il y a maintenant aujourd'hui des pâtissiers qui font d'autres techniques de tour et qui arrivent à faire 2000 feuilles. Il y a 2000 feuilles dans un millefeuille. Bon, pour ce qui est de la recette, pas très compliqué. Vous achetez votre pâte feuilletée chez votre pâtissier, il va accepter de vous en vendre un morceau. C'est assez compliqué à faire la pâte. C'est pas très compliqué, mais surtout c'est très long. Voilà. Donc vous achetez des rectangles de pâte feuilletée de 5 sur 20 cm et vous allez devoir en revanche réaliser la délicieuse
crème pâtissière.
Et ça, c'est pas très compliqué. 25 centilitres de lait, une gousse de vanille, 50 grammes de sucre, 30 grammes de maïzena et un œuf de la ferme de Stéphane Bern.
Sinon, ça marche pas.
C'est mieux quand même. Donc, vous allez porter le lait à ébullition. On va gratter la petite gousse de vanille pour récupérer les grains. On va infuser tout ça pendant au moins un quart d'heure. Pendant ce temps, on mélange le sucre, la farine et l'œuf. On enlève la gousse de vanille, évidemment. On reporte à ébullition et on verse le lait très chaud sur notre mélange en remuant de temps en temps. Ça va épaissir et on va obtenir une texture de plus en plus crémeuse. Et en la laissant refroidir, elle va se solidifier et on aura donc notre crème pâtissière. Puis, ben, c'est pas très compliqué. On va cuire la pâte feuilletée. Il faut la piquer avant de la mettre au four de manière à éviter qu'elle ne gonfle trop. Donc, on fait des petites piques avec une fourchette.
Je crois que Stéphane est tricoté pour faire ça.
Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Je me sens très émoustillé par ce sujet sur le millefeuille.
Bien sûr, ça me passionne.
Il y a un truc. Je crois que c'est peut-être le jeu avec la crème pâtissière, non?
Non. Écoutez, on peut pas tout faire. On a déjà fait du sexe avec votre roquefort. On va le faire maintenant avec la crème pâtissière.
On a fait du sexe avec d'autres roquefort.
Ils m'ont dit, tout à fait. Et donc,
on cuit dans un four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes et on monte pour terminer. Donc, évidemment, en dessous, une couche de pâte feuilletée. On vient tartiner la crème par-dessus. Une pâte feuilletée. De la crème. De la pâte feuilletée. Et on termine le glaçage. Là aussi, c'est très compliqué, mais simplement un petit peu de sucre glace par-dessus, ça marche très bien.
Stéphane a beaucoup pouffé pendant cette chronique. Petit quiz, Stéphane, combien de feuilles dans le millefeuille?
729.
Exactement, 729.
Vous avez vu, j'ai suivi.
C'est joué, écoutez, à peu de choses près.
On peut glousser et suivre.
Oui, vous pouvez glousser et suivre.
Et pour le manger, il faut le manger latéralement sur le côté. Oui, c'est ça, et non pas.
Alors, le truc, c'est vraiment l'enfer, c'est que si vous essayez de manger comme
jamais.
Vous ouvrez la bouche et vous l'écrasez.
Je rappelle, les gâteaux se mangent avec une fourchette.
Oui, c'est mieux quand même, Olivier. Peut-être pas en Belgique, mais en tout cas, la tête de Stéphane.
Quand vous l'achetez à la pâtisserie entre l'heure du midi, par exemple, on n'est pas toujours un service complet pour manger.
Il mange des millefeuilles comme un sandwich. Il est taré. Olivier, on retrouve toutes vos recettes et on vous retrouve demain surtout autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Stéphane, vous êtes là. Le mot de la fin arrive, il est prêt. Oui. Aujourd'hui, c'est l'expression de but en blanc.
Oui.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bon Stéphane, je suis ému.
Oh oui,
c'est
oui.
La centième aujourd'hui. Oui. C'est donc votre centième mot de la fin. Centième expression que vous allez décortiquer pour
c'est
vous.
Vrai, déjà 100
Déjà 100, Stéphane. Déjà
c'est 100. Incroyable. Oui, je l'avoue ici dans Historiquement vôtre, mais à coup de pas, j'ai souvent tendance à me vautrer dans des circonvolutions à rallonge, à kiffer les apartés ou digressions. Mais il m'arrive parfois, je vous prie de me croire, Mathieu, d'aller droit au but, de parler de but en blanc. De but en blanc.
Quand on parle de but en blanc, on parle directement, sans détour. Straight to the point, comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane.
Oui, la formule date du XVIIe siècle et l'expression emprunte à l'univers militaire deux éléments d'un pas de tir. De but en blanc désigne deux choses. La butte, qui était le petit tas de terre sur lequel on reposait le canon du fusil pour lui assurer une bonne stabilité, et le blanc qui représentait la cible. De but en blanc, c'est donc le trajet du canon à la cible, donc une trajectoire droite, sans détour, rapide et sans faux semblant. Quand on dit les choses de but en blanc, on fait la même chose. On parle franchement, sans précaution. On va droit au but, comme on dit à l'Olympique de Marseille. Avant, de but en blanc, on disait de pointe en blanc. La pointe étant encore une fois l'endroit d'où on visait, de là où on pointait avec son arme à feu. D'ailleurs, c'est drôle, l'expression est restée au jeu de boules où l'on continue de pointer.
Ah, c'est vrai, oui.
Notez que de pointe en blanc existe toujours en italien. On dit « di punto y bianco ». En espagnol, on dit « sin rodeos », sans faire de détour ni de rodeo. Mmh. Alors qu'au Brésil, c'est « debate pronto », frapper le ballon autant qu'il touche le sol. Je vois pas trop le rapport, faudra m'expliquer, parce que même si je vous le dis de but en blanc, moi, j'ai quand même des lacunes en ballon rond.
On sent, même si vous connaissiez la devise de l'Olympique de Marseille, et ça, personnellement, ça m'a touché quand même, Stéphane.
Oui. Vous êtes
Oui, je suis supporter de l'OM. Bah, quand on a eu 10 ans en 93 et qu'on a gagné les Ligues des Champions, c'est une génération de fans de l'OM partout, même à Genève.
Mais c'était truqué, non?
Je m'en vais. Eh bien, cette émission se termine. C'était le dernier numéro d'Historiquement Vôtre, la centième, le dernier numéro en tout cas pour David Castello-Lopez. Non, c'était une émission particulièrement émouvante aujourd'hui, puisque c'était effectivement la centième. Beaucoup d'émotions pour nous et beaucoup de boulot pour les gens qui nettoieront le studio. En effet, cet après-midi, Stéphane, nos personnages ont écrit sur les murs qui, de la femme préhistorique Jean-Michel Basquiat ou plus vraisemblablement Demis Roussos, vous a le plus bouleversé.
Alors,
Stéphane.
Bon, j'ai une passion, vous le sentez, un tropisme grec avec Demis Roussos. Mais pour autant, je pense qu'on a fait œuvre utile cet après-midi en rappelant que l'homme historique était une femme.
Effectivement,
qu'elle écrivait, qu'elle peignait, qu'elle chassait, qu'elle avait des muscles, j'allais dire d'homme.
aussi développés
que les hommes. Voilà. Et qu'elle savait tout faire comme les hommes. Et ça, je dois dire, les féministes nous remercieront.
Les féministes vous remercieront, Stéphane, très probablement. D'ailleurs, elles m'appellent déjà, elles me disent remercie, Stéphane. Remercie, formidable, Stéphane. Bisous, kiss, cœur. On se retrouve demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.